Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 12 novembre 2020. Eric Manelakiza en votre compagnie. D'abord, le sommaire. L'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, est décédé à l'âge de 73 ans. Au Burkina Faso, sept soldats tués hier dans une embuscade dans le nord du pays. L'Éthiopie tente d'afficher le soutien de sa population à l'opération au Tigré. Quatrième jour de négociations politiques libyennes en Tunisie sur le partage du pouvoir. Joe Biden a nommé son futur chef de cabinet à la Maison-Blanche, alors que Donald Trump refuse toujours d'accepter sa défaite. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, juste après le journal. L'ancien président ghanéen Jerry Rawlings, qui a dirigé durant 20 ans ce pays, d'abord comme chef d'un régime militaire, puis président élu, est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé jeudi son parti. Le point avec Nathalie Barge.
J'annonce la suspension de notre campagne politique après la nouvelle de la mort du fondateur de notre parti et ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, a déclaré l'ex-président John Mahama, principal candidat de l'opposition à la présidentielle de décembre. Après un premier coup d'État en 1979 à l'âge de 32 ans, Jerry Rawlings, ancien pilote de l'armée de l'air, avait repris les rênes du pays lors d'un second coup de force 2 ans plus tard. À partir de 1981, il est devenu chef du Conseil national provisoire de défense et a dirigé un régime militaire pendant 11 ans avant de céder à la vague du multipartisme dans les années 90. Élu président en 1992 et réélu en 1996, Rawlings a quitté le pouvoir en 2000 lorsque John Kuofor a remporté la présidentielle contre Jonathan Mills, son vice-président d'alors. Depuis, le Ghana est cité comme modèle pour ses alternances pacifiques et démocratiques.
Au Mali, la contestation grandit contre l'emprise des militaires sur la transition. Le mouvement dit du 5 juin a dénoncé dans un communiqué hier soir l'ascendant des militaires sur la transition sous un habillage civil. Il a appelé à entrer en résistance. D'autres organisations ont exprimé leur refus de participer à la mise en place d'un organe législatif de transition. 7 soldats burkinabés ont été tués et plusieurs blessés ou portés disparus. C'était hier dans une embuscade tendue dans le nord du Burkina Faso en pleine campagne pour l'élection présidentielle. Les précisions avec Baga Sikoura.
Selon une source sécuritaire, une patrouille militaire est tombée dans une embuscade sur l'axe Tinakoff-Beldiabé dans la province de l'Oudalane, frontière du Mali et du Niger. La dernière embuscade remontait au 11 septembre. 4 soldats avaient été tués. Le Burkina Faso organise des élections présidentielles et législatives le 22 novembre. Le président Roch Christian Kabore, candidat à un second mandat, a lancé sa campagne en promettant de ramener la paix. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir été incapable de faire face à la menace djihadiste. En raison des violences, près de 1500 villages sur plus de 8000 dans 22 communes ne vont pas participer au scrutin. En septembre, les députés ont adopté une nouvelle loi permettant de valider les résultats des élections, même si elles ne se déroulent pas sur l'ensemble du territoire. Le Conseil constitutionnel avait constaté l'existence d'une force majeure en raison de la présence de groupes terroristes et l'absence de l'administration dans les zones affectées.
3 opposants guinéens se sont rendus jeudi à la convocation de la police qui a lancé avec la justice une vaste opération d'arrestation et d'interrogatoire sur les violences autour de la récente présidentielle. Ibrahima Sherif Ba, Ousmane Gawal Diallo et Abdoulaye Ba sont des responsables de l'Union des Forces démocratiques, le parti dirigé par le principal challenger de M. Condé à la présidentielle, Selou Dalein Diallo. Une aide d'urgence est nécessaire au Tchad pour environ 11 500 personnes récemment déplacées par les fortes inondations qui ont touché N'Djamena depuis août, a estimé jeudi l'Organisation internationale pour les migrations. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé jeudi la Centrafrique à appliquer entièrement et sans retard l'accord de paix de février 2019 en renouvelant pour un an sa mission de casquet bleu et l'autorisation faite à la France de les soutenir militairement. Les Nations Unies et l'Église catholique sont intervenues mercredi dans la crise politique qui couvre au sein de la coalition au pouvoir en RDC entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a demandé aux acteurs politiques de tous les bords de s'abstenir de tenir des discours pouvant porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale. De nombreux civils ont été tués lors d'un massacre perpétré, selon des témoins, par des forces loyales au parti au pouvoir dans la région éthiopienne du Tigré, où une opération militaire lancée par le pouvoir fédéral est en cours, a déclaré jeudi Amnesty International. L'organisation précise avoir examiné des photographies macabres et des vidéos montrant des corps disséminés dans la ville ou bien transportés sur des brancards. L'ONG indique ne pas avoir été en mesure d'identifier elle-même les responsables. Un naufrage au large des côtes de la Libye a fait au moins 74 morts. L'Organisation internationale pour les migrations indique que 31 corps ont été repêchés et que les recherches pour les autres victimes se poursuivent. Michel Joseph.
L'OIM signale un terrible naufrage qui a fait au moins 74 morts aujourd'hui même au large de Kouma sur la côte libyenne. L'agence onusienne précise que 47 survivants ont été amenés à terre par les gardes-côtes libyens et des pêcheurs et pour l'heure, 31 corps ont été repêchés et les recherches se poursuivent. Ces deux derniers jours, 19 personnes, dont deux enfants, se sont noyées en Méditerranée centrale, indique l'agence de l'ONU, précisant que le navire de l'ONG Open Arms, le seul à opérer actuellement, a sauvé 200 personnes dans trois opérations. Depuis le début de l'année, au moins 900 personnes sont mortes en essayant d'atteindre les côtes européennes. Plus de 11 000 autres ont été renvoyés en Libye, au risque de les exposer à des violations des droits de l'homme, à la détention, aux abus, au trafic humain et à l'exploitation, souligne l'agence onusienne dans son communiqué.
Quatrième jour de discussion interlibyenne en Tunisie. 75 délégués ont repris les négociations politiques sur le partage du pouvoir au sein d'un exécutif unifié au lendemain d'un accord préliminaire sur l'organisation d'élections dans un délai de 18 mois en Libye. Jacques Aristide.
Le dialogue sous l'égide de l'ONU se déroule depuis lundi à Gamarthe, dans la banlieue de Tunis, pour tenter de sortir la Libye du chaos. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, les pourparlers ont lieu depuis la cessation en juin dernier des hostilités entre les deux camps rivaux, le GNA, le gouvernement d'union à Tripoli, et à l'est, le pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Hier, les délégués choisis par l'ONU sont tombés d'accord sur une feuille de route préliminaire, prévoyant de tenir des élections présidentielles et parlementaires dans un délai n'excédant pas les 18 mois. Au menu aujourd'hui, la question des prérogatives du Conseil présidentiel et du gouvernement, d'après l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stephanie Williams, présente à ses pourparlers. Les délégués sont chargés de nommer les trois membres de ce Conseil et le chef du gouvernement, selon l'ONU. Parallèlement à ces discussions, des pourparlers se tiennent à Sirte, en Libye, sur la concrétisation du cessez-le-feu permanent annoncé en octobre dernier entre les forces du GNA et celles du maréchal Haftar.
Huit membres de la force multinationale d'observateurs dans le Sinaï égyptien, dont six Américains, un Français et un Tchèque, ont été tués dans le crash de leur hélicoptère. Trois ans après la signature de leur traité de paix, l'Égypte et Israël, avec l'appui des États-Unis, on rétablit cette force déployée en 1982 comme une organisation internationale indépendante de maintien de la paix.
À Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a choisi dans la nuit de mercredi à jeudi Ron Klain, un démocrate chevronné, pour être son futur chef de cabinet à la Maison-Blanche. Monsieur Biden procède ainsi à sa toute première nomination annoncée dans un communiqué par son équipe de la transition. Le président Donald Trump a jusqu'à présent refusé de concéder sa défaite et mène une bataille judiciaire dans l'espoir de renverser le résultat de l'élection. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a exhorté jeudi les puissances mondiales à être fermes à l'égard de l'Iran et à l'empêcher de se doter d'armes de destruction massive. L'Arabie Saoudite, qui se dispute le leadership de la région avec l'Iran, semble craindre que le président américain élu Joe Biden revienne à l'accord conclu en 2015 alors qu'il était vice-président de Barack Obama. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lyndon.
Le Nigeria a ratifié hier la zone de libre-échange continentale censée devenir l'espace commercial le plus peuplé du monde. L'annonce a été faite sur Twitter par le gouvernement. Ce marché commun qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2021 ambitionne de faire progresser les échanges intra-africains pour doper les économies du continent. Sur les 55 pays africains, 54 sauf l'Érythrée, ont déjà signé cet accord lancé officiellement en juillet 2019. Tous ne l'ont pas encore ratifié. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire français BNP Paribas, a enregistré une perte de 3,612 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2019. Cela contraste nettement avec 2018 où cette banque avait réalisé un bénéfice de plus de 9 000 milliards de francs CFA. Les cinq États de l'UEMOA ayant sollicité le marché régional ont levé entre le 27 octobre et le 10 novembre 2020 un montant global de 683 milliards de francs CFA au titre des bons sociaux COVID-19. Le montant global levé par les États lors de cette phase représente une baisse de 17,7% comparé à la deuxième vague. Ils avaient en effet emprunté 831 milliards de francs CFA entre juillet et août 2020, contre 1200 milliards en avril et mai.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La fenêtre internationale FIFA s'est ouverte hier sur le continent avec les matchs de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine CAN. La Guinée a disposé du Tchad 1-0 à Conakry et prend provisoirement la tête du groupe A avec 7 points. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Madi Camara. Des buts de Sadio Mané et Opan Guedes ont permis au Sénégal de s'imposer 2-0 à domicile face à la Guinée-Bissau. 1-1 entre la Mauritanie et le Burundi, même score entre le Kenya et les Comores. 3-2 pour la Guinée équatoriale face à la Libye. Cette troisième journée des éliminatoires se poursuit ce soir avec entre autres rencontres Cameroun-Mozambique, Côte d'Ivoire-Madagascar, Ghana-Soudan, Algérie-Zimbabwe, Congo-Eswatini, Gabon-Gambie ou encore Burkina Faso-Malawi. Demain, le Mali reçoit la Namibie au stade du 26 mars de Bamako. Selon le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magasouba, la Namibie est un adversaire de taille que le Mali connaît déjà. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
C'est un match qui s'annonce difficile à en croire les propos du sélectionneur national des Aigles du Mali. Pour Mohamed Magasouba, la Namibie est un adversaire coriace et redoutable. Parce que par le passé, Mali-Namibie n'a jamais été un match facile. Il faudra donc s'attendre à une rencontre de titans. Bref, ce sera un match époustouflant et engagé des deux côtés, a indiqué Magasouba. Pour le sélectionneur du Mali, les Aigles sauront relever le challenge qui les attend. En clair, il s'agira pour eux d'arracher les 3 points à domicile au bonheur de leurs supporters qui seront sévrés de leur équipe pour cause de coronavirus. Puisque le match se jouera à huis clos. Si le Mali gagne demain, lors de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, ce sera une large option vers la qualification pour la phase finale. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
En Europe, ce fut une soirée de matchs amicaux internationaux marquée par une énorme surprise. La défaite concédée par la France, championne du monde devant la modeste Finlande, victorieuse 2-0 au Stade de France. Cette défaite intervient à 3 jours du match à Lisbonne en Ligue des Nations contre le Portugal qui, lui, n'a pas fait dans la dentelle face à Andorre, écrasé 7-0. La principale affiche Pays-Bas-Espagne s'est soldée dans la Johan Cruyff Arena à Amsterdam par un résultat nul 1-1. La Belgique, l'Italie et l'Allemagne sont restés maîtres à domicile face respectivement à la Suisse 2-1, l'Estonie 4-0 et les Tchèques 1-0. Cette soirée a vu en outre la Turquie et la Croatie se séparer sur un match nul, mais avec une pluie de buts 3-3 à Istanbul.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour aborder les dossiers du jour. Première rencontre hier entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan-Bédier, depuis l'élection présidentielle du 31 octobre, contestée par l'opposition. Ce tête-à-tête visait à tenter de mettre fin aux violences électorales qui ont fait 85 morts en 3 mois en Côte d'Ivoire. Pour analyse, Yacouba Ouédraogo a joint à Abidjan l'analyste politique André Silver Konan.
La Côte d'Ivoire, après la rencontre, se porte mieux. En tout cas, mieux par rapport à toutes ces semaines qui se sont écoulées depuis l'annonce de la candidature pour un troisième mandat manifestement illégal du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, l'on ne m'a pas encore signalé des incidents majeurs. Donc, je pense que c'est la conséquence de cette rencontre.
Une rencontre pour briser la glace, disent les deux. Faut-il croire réellement à un apaisement définitif des violences?
Alassane Ouattara a dit « c'est une rencontre pour briser la glace ». Henri Konan-Bédié a dit « c'est une rencontre pour briser le silence ». Ce sont deux choses totalement différentes qui attestent de ce que la crise de confiance demeure. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'allons pas apporter un blanc-seing à cette rencontre qui est importante, mais pas essentielle, d'autant que ce qui est essentiel, c'est le dialogue inclusif.
Alassane Ouattara a déjà prêté serment pour son troisième mandat controversé. Quel genre de compromis pourrait dégager les deux camps?
Les revendications de l'opposition partent donc de l'annulation du scrutin pour certains, au renforcement des acquis démocratiques, de la gouvernance démocratique pour d'autres. Et de ce fait, je pense que les discussions tourneront autour des revendications de l'opposition, qui sont entre autres la libération des prisonniers politiques, la levée du blocus de certaines résidences. J'ai cru lire que certains blocus de résidences d'opposants ont commencé à être levés effectivement. La transparence de la commission électorale indépendante et bien d'autres sujets. Mais aussi des revendications dont la renonciation donc à ce Conseil national de transition manifestement anticonstitutionnel et illégal de l'opposition.
Derrière Henri Konan-Bédié, il y a des poids lourds, comme Laurent Gbagbo, Pascal Affine-Guessant, il y a Guillaume Soro, il y a Charles Blé-Goudé. On sait que c'est très tendu entre Gbagbo, Charles Blé-Goudé et Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Est-ce que Bédié peut être le porte-voix de ces personnalités-là auprès de Ouattara?
Cela est fort possible. Dans tous les cas, Laurent Gbagbo a déjà déclaré qu'il soutenait la coalition de l'opposition amenée par Henri Konan-Bédié. Guillaume Soro est déjà, je vais dire, en partenariat avec Henri Konan-Bédié. Pascal Affine-Guessant a été jusque-là très récemment le porte-parole du Conseil national de transition présidé par Henri Konan-Bédié. Cela ne devrait donc pas être un vrai problème pour l'opposition. Ce qui serait un problème, c'est que le PDCI d'Henri Konan-Bédié cherche peut-être à faire cavalier seul. Mais pour nous, cette discussion ne doit pas seulement tourner autour des dirigeants politiques qui ont contribué quand même à nous mettre dans cette situation, parce que le troisième mandat d'Alassane Ouattara, il faut bien comprendre que c'est parti d'arrangement entre anciens alliés du RHDP aujourd'hui devenus adversaires. De ce fait, la discussion doit aussi inclure la société civile, dont les hommes libres et indépendants, les intellectuels que nous sommes.
André Silver Konan, analyste politique à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le conflit militaire entre l'Éthiopie et la région dissidente du Tigré a fait craindre une guerre civile dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Cela soulève aussi des inquiétudes sur la propagation de l'instabilité régionale si ce conflit perdure. Le reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi, le récit est de John Lyndon.
Le conflit entre le gouvernement fédéral éthiopien et les combattants du Front de libération du peuple du Tigré entre dans sa deuxième semaine. Quelques 8000 Éthiopiens se sont réfugiés au Soudan et les agences humanitaires attendent davantage dans les prochains jours. Le conflit a commencé lorsque des combattants du Tigré ont attaqué une position du gouvernement fédéral dans ce que le gouvernement a qualifié des tentatives de pillage d'un stock d'armes et d'équipements. Le premier ministre Abiy Ahmed a aussitôt ordonné une action militaire pour mettre fin au soulèvement. Comfort Hero est le directeur du programme Africa International Crisis Group.
Right now, what we see is more and more fighting.
À l'heure actuelle, ce que nous voyons, c'est davantage de combats, des positions plus tranchées des deux côtés. Même si les forces tigréennes sont écrasées et maîtrisées, vous pouvez vous attendre à une forte résistance, une résistance de type guérilla, et c'est possible. Nous ne voyons pas les Tigréens être gouvernés de sitôt depuis Addis, et nous pourrions envisager une situation longue et prolongée.
Ces tensions montent depuis septembre, lorsque la région du Tigré, l'un des 9 États fédéraux de l'Éthiopie, a défié en organisant des élections locales que le premier ministre Abiy Ahmed avait reportées en raison de la pandémie de COVID-19. Il y a eu peu d'informations provenant de la zone de conflit et des difficultés à évaluer les besoins humanitaires, car le gouvernement a coupé l'accès à Internet. Thomas Murphy est un analyste du renseignement et des risques de sécurité en Afrique subsaharienne. Pour lui, l'échec du gouvernement à vaincre les combattants tigréens pourrait causer beaucoup plus de problèmes au pays.
The likelihood of a coup would almost certainly increase.
La probabilité d'un coup d'État augmente certainement si l'armée ne parvient pas à vaincre les combattants du Front de libération du peuple du Tigré. Cela viendrait probablement de factions qui, auparavant, ont été très influentes au sein du gouvernement. En termes d'implication plus large, l'Éthiopie est actuellement dans un état très fragile et je pense que la probabilité que les tensions s'intensifient ou se détériorent en poche de conflits impliquant d'autres acteurs ethniques à travers le pays est très élevée.
Dimanche, le premier ministre a nommé un nouveau chef de l'armée et du renseignement pour mener la guerre dans la région du Tigré. L'expert politique Aolalo estime que vouloir régler les problèmes du pays avec des armes à feu pourrait le diviser encore plus.
C'est déjà un pays très divisé sur des bases ethniques. La Constitution donne aux gens le droit à l'autodétermination avec la capacité de déterminer leur statut politique et culturel, mais aussi le droit d'être un État indépendant. Ainsi, la décision du Premier ministre de régler un différend politique par une confrontation armée conduirait probablement à la désintégration de l'État éthiopien en plusieurs petites républiques, ce qui, bien sûr, aurait une ramification considérable non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour la Corne de l'Afrique.
En 2019, Abiy Ahmed a remporté le prix Nobel de la paix pour ses efforts de mettre fin aux hostilités entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il a aussi arbitré les différends au Soudan du Sud, au Kenya et en Somalie. Mais il a cependant exclu les pourparlers avec les dirigeants du Tigré, alors que selon International Crisis Group, seul un dialogue national complet pourrait sauver l'Éthiopie et la région.
Ici aux États-Unis, la campagne du président Donald Trump a lancé cette semaine une bataille juridique pour arrêter la certification des résultats des élections en Pennsylvanie. Le président refuse toujours d'accepter sa défaite face à Joe Biden. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est signé Lionel Lunaniragahima.
Le 11 novembre, pour commémorer l'armistice, le président Donald Trump a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d'Arlington, tandis que le président élu Joe Biden a visité Philadelphie, le mémorial de la guerre de Corée. Aucun d'entre eux n'a fait de remarques. Trump refuse de concéder la victoire à Biden plus d'une semaine après l'élection présidentielle. Le président a même déclaré sur Twitter « Nous allons gagner ». Monsieur Trump est donné gagnant dans l'État de l'Alaska, ce qui lui donne maintenant 217 grands électeurs contre 279 pour Biden. Un candidat a besoin d'un minimum de 270 grands électeurs pour remporter la course à la Maison-Blanche. Trois États n'ont pas encore affiché des résultats complets, à savoir l'Arizona, la Géorgie et la Caroline du Nord. En plus de diverses contestations judiciaires déjà déposées dans plusieurs États alléguant une fraude électorale, la campagne Trump a lancé un nouveau procès pour bloquer la certification des résultats des élections en Pennsylvanie. Paul Schiff-Begman est professeur de droit à l'Université George Washington.
It is possible Il est possible que s'ils soulèvent assez de poussière, suffisamment d'allégations et d'incertitudes, ils pourraient convaincre les législatures contrôlées par les républicains de faire asseoir une liste rivale de grands électeurs qui seraient opposés à ce que les votes dans l'État et les électeurs de l'État ont réclamé. Ce serait une étape extrême, ce serait vraiment un coup d'État contre le peuple américain et une destruction du processus démocratique.
Par ailleurs, deux États, le Wisconsin et la Géorgie, se dirigent vers un recomptage des bulletins. Brad Raffensperger est secrétaire d'État de la Géorgie.
La marge étant si étroite, il faudra un recomptage manuel complet dans chaque comté. Cela va contribuer à renforcer la confiance. Ce sera un audit, un recomptage et une nouvelle analyse en même temps. All at once.
Le camp Trump a célébré cette annonce avec le directeur de la communication de la campagne, Tim Martell, en déclarant « c'est une première étape importante dans le processus visant à garantir que l'élection était juste et que chaque vote légal était compté ». Jusque-là, aucune des batailles juridiques engagées par la campagne Trump n'a fourni des preuves de ces allégations de fraude, ce que, de leur côté, les démocrates ne manquent pas de souligner. Chris Murphy, sénateur démocrate.
Nous sommes une semaine après le scrutin et le président cherche toujours désespérément des preuves de fraude. Il ne les trouvera pas parce qu'elles n'existent pas.
Même si Trump réussit dans certains de ses procès et ses demandes de recomptage, les analystes estiment qu'il est peu probable que cela puisse annuler la victoire de Biden. Rob Stutzman, stratège républicain.
Ce que les médias de gauche comme de droite ont conclu semble raisonnable, à savoir qu'il est impossible pour Trump de combler le déficit auquel il est confronté dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et le Nevada.
Selon la loi, les grands électeurs des États doivent officiellement voter pour le président et le vice-président à la mi-décembre.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production pour la réalisation et la mise en onde. À la présentation, Eric Manirakiza. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Durant la guerre civile américaine, le président Abraham Lincoln a appelé ses compatriotes dans son fameux discours de Gettysburg à assurer que la liberté ne périsse de la surface de la terre. Ces mots ont aussi inspiré de nombreux Américains au fil des années, y compris des millions qui se sont battus dans notre armée pour préserver la liberté non seulement de l'Amérique, mais d'autres nations également. Mercredi, au Veterans Day, la journée de l'ancien combattant, l'Amérique a observé une pause pour honorer ses hommes et femmes, de même que les valeurs et devoirs qu'ils représentent. Bien après avoir quitté l'uniforme, il symbolise ce que cela signifie d'être citoyen d'un pays libre. Cette fête, observée chaque 11 novembre, est née de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918. Le conflit qui a eu lieu en Asie, en Afrique, dans les îles éparses du Pacifique et les eaux au large de l'Amérique du Sud, de même que sur les champs de bataille d'Europe, était perçu comme la guerre pour mettre un terme à toutes les guerres. Mais d'autres guerres ont suivi et en 1954, le président Dwight Eisenhower a étendu cette fête pour honorer ceux qui ont servi sous l'uniforme en temps de guerre et en temps de paix. Notre gouvernement continue cet effort à ce jour avec un programme pour aider les militaires qui ont quitté l'armée à trouver du travail et faciliter leur transition à la vie civile. Toutefois, la journée de l'ancien combattant ne concerne pas la guerre. Elle ne commémore pas une victoire sur un champ de bataille. ou un progrès dans la promotion d'ambitions politiques ou territoriales. C'est plutôt une journée du souvenir en écho à des fêtes similaires en Grande-Bretagne, au Canada, en Afrique du Sud et dans d'autres pays qui honorent leurs anciens combattants pour leurs services et leurs sacrifices.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.